certainement que je suis content qu'il en soit ainsi, parce que l'islam, dès son apparition, s'est trouvé dans une position inconfortable. Et je suis moi-même dans cette position inconfortable pour plusieurs raisons. D'abord pour des questions de temps et aussi pour des questions de situation des esprits, après tout ce que nous avons entendu, et aussi pour des questions de présentation. En effet, m'adressant à un auditoire qui n'a pas, dans sa majorité tout au moins, beaucoup d'informations sur l'islam, il est très difficile de parler allusivement, comme on pourrait se le permettre, malgré tout, devant cet auditoire, pour le judaïsme. Et par conséquent, je me sens obligé de vous donner à la fois une information de base, je puis dire, et aussi un certain nombre de réflexions sur la façon dont ce problème, révélation et écriture, se pose en islam. Et je vais essayer de me tenir à ce sujet. Il est suffisamment vaste et suffisamment complexe pour que l'on s'y tienne. Je vous ai dit ce matin à Mécatis que la façon de présenter les choses pouvait être appliquée entièrement pour l'étude du problème de la révélation et de l'écriture dans le Coran. Ce n'était pas du tout pour lui faire une pièce, mais parce qu'il a utilisé, si vous voulez, ce que j'appellerais la panoplie universitaire sur la linguistique, l'histoire, etc., pour essayer d'introduire ces problèmes concernant la relation de révélation et l'écriture. Cette panoplie, on l'appelle panoplie pour la réduire à sa juste mesure, on n'est pas pour la maîtriser. Nous sommes obligés de l'utiliser. Et nous utilisons toujours des procédés culturels pour accéder aux problèmes importants. Mais cette panoplie présente la caractéristique aujourd'hui de nous permettre de franchir un certain nombre de difficultés qui n'ont pas été franchies jusqu'à présent. Et alors il faut prendre acte de cette chose-là. Je veux dire par exemple que tout le travail accompli par l'historiologie, la méthode historico-critique, et plus récemment par l'approche linguistique de ces problèmes-là, nous a permis d'accéder au problème du texte qui nous transmet ce phénomène de la révélation d'une autre manière que cela a été fait au cours de plusieurs siècles. Et cette accession à ces problèmes nouvelles, par des méthodes nouvelles, qui nous ouvrent les esprits par rapport à ce qui a été fait, et jusqu'à présent, le privilège de ceux qui ont bâti ces méthodes, qui les ont étudiées. Or, ceux qui les ont étudiées sont relativement peu nombreux par rapport à ceux qui vivent de ce que nous pouvons appeler encore, sans trop le définir encore, la révélation. Voilà pour moi une première difficulté. J'avais dit tout à l'heure à M. Vallée que je ne peux pas tenir un discours purement conceptuel, purement philosophique, purement méthodologique, sans me référer aux difficultés réelles que je trouve sur le terrain. C'est-à-dire que je trouve parmi les hommes qui vivent de la croyance de la religion aujourd'hui, eh bien, en ce qui concerne l'islam, cette difficulté est extrêmement, il y en a beaucoup, sont extrêmement importantes. C'est d'autant plus important que, jusqu'à présent, en islam, elles sont encore relativement peu abordées comme elles l'ont été dans la tradition occidentale. Alors, cela crée, si vous voulez, une difficulté supplémentaire par rapport à celle que vous pouvez trouver chez vous, une difficulté supplémentaire pour la présentation musulmane de ce problème-là. Vous savez en effet qu'en islam, la doctrine sur la révélation est d'une extrême simplicité, une figure. C'est en même temps plus difficile, bien sûr, lorsqu'on commence à l'analyser précisément à la lumière de cet accord nouveau de la critique et de la linguistique, comme nous allons le voir. Je rappelle brièvement quelle est la doctrine de la révélation en islam, parce que nous pouvons trouver dans le Coran, car c'est là qu'il faut rapporter cette doctrine-là. La révélation est conçue comme étant la parole de Dieu de communiquer aux hommes par l'intermédiaire, dira la tradition plus tard, que les déjà dans le Coran, c'est une invitation, par l'intermédiaire de l'intermédiaire, communiquer au prophète. Le prophète est, comme on l'indique aujourd'hui, le saint énonciateur d'une parole qui n'est pas du tout à lui. C'est la manifestation même de la parole de Dieu qui, évidemment, se traduit dans un langage humain, d'où un certain nombre de difficultés, bien sûr, et que nous allons trouver, et qui sont les mêmes précisément chez nous trois. Vous avez par exemple un verset très net là-dessus, c'est le verset 51 de la sourate 42, qui dit qu'il n'est pas dans la nature de l'homme de recevoir la parole de Dieu, sinon par le moyen de la révélation, ou par derrière un voile, ou par un envoyé qui envoie. Vous voyez, il y a là trois modalités de communication qui sont mentionnées dans le Coran lui-même. Il y a la modalité de la révélation. Alors qu'est-ce que la révélation? Qu'est-ce que le wahy? C'est un problème linguistique. Ça n'est pas un problème spéculatif. C'est d'avoir un problème linguistique, c'est-à-dire que veut dire le mot wahy dans la langue arabe au moment où il est employé. Et vous êtes employé dans ce verset-là. Alors, il y a toute une exégèse sur le mot wahy qui indique qu'il s'agit d'un souffle, il s'agit d'une inspiration, il s'agit d'une voix qui parle. Tous ces mots-là, vous le voyez, sont des mots extrêmement généraux qui ne précisent pas exactement la modalité de la révélation. Mais, justement, c'est là que les problèmes vont se nouer. En ce qui concerne la définition de la révélation, c'est qu'ils ne vont pas se nouer uniquement pour l'islam, ils se sont noués de la même façon, à mon sens, et j'aimerais avoir votre opinion là-dessus, et ce sont là des problèmes que nous avons à discuter ensemble pour essayer de faire progresser concrètement et pratiquement des problèmes qui sont soulevés non pas par des intellectuels, non pas par des spécialistes, mais qui concernent absolument les croyants les plus simples. Car les musulmans les plus simples, quand ils lisent ce verset-là, bien sûr ils le lisent avec foi, mais il y en a parmi eux, comme l'ont fait les exégètes depuis très longtemps, qui se demandent, mais enfin, c'est voir ce que c'est exactement. Comment ça se manifeste? Il y a le comment qui intervient. Cette révélation de Rahim, il se passe donc par l'intermédiaire de l'ange ou de la voix, ou par derrière une voix qui s'exprime par derrière un voile, le voile ici est à prendre à son avis, se transmet aux hommes ce qui est inscrit dans ce que le Coran appelle un multitaire, c'est-à-dire le livre archétypique. Cette notion du multitable est extrêmement importante pour définir la notion de la révélation telle qu'elle s'exprime en islam. En effet, le multitable, le livre archétypique, contient la totalité de la parole de Dieu. Et ce livre, dans sa totalité, ne nous est pas révélé. Ce sont seulement des parties de ce livre complet qui nous sont révélés dans une histoire de la révélation. L'histoire de la révélation qui, comme vous le savez, joue un rôle extrêmement important dans le Coran. Et qui remonte, bien sûr, jusqu'à Abraham, et il y a là une continuité de cette manifestation de double titre du livre archétypique. Il est communiqué par bribes, car ce ne sont que des bribes, intimes, par rapport à ce que contient évidemment ce livre complet, ce livre archétypique. Et cette notion par conséquent de continuité et de discontinuité à la fois de la révélation est assez importante, parce qu'elle relativise pour le croyant ce que nous pouvons connaître de la volonté de Dieu telle qu'elle est inscrite dans ce livre archétypique, c'est-à-dire en somme Dieu lui-même. C'est le problème de la relativisation de la connaissance que nous pouvons avoir de Dieu lui-même. Ce sont simplement des aspects les fugitifs de Dieu que nous avons à travers ce qui nous est communiqué dans ce qui va devenir les écritures. C'est la révélation de l'écriture. Alors, il y a un très grand nombre de versets, je n'aurai pas le temps de les citer, mais je veux insister sur le fait que ce thème de la révélation, ainsi défini brièvement, est extrêmement présent dans le Coran. Et cette présence-là atteste le fait que la parole manifestée dans le Coran prend en charge tout une symbolique, si vous voulez, de la révélation qui avait déjà existé dans le Proche-Orient ancien en relation avec l'expérience biblique et chrétienne de la révélation. Je souligne ce thème-là qui est très cher à l'islam. Je vous disais au départ que l'islam se trouvait en position inconfortable dès sa naissance. Je voulais dire par là qu'il est intervenu dans un espace déjà rempli, dans un espace déjà occupé. Et comment? Par toute la tradition juive et par toute la tradition chrétienne, car il est apparu au début du 7e siècle. Et il est apparu dans une terre qui avait été travaillée par une très longue tradition. Relativement à tous ces problèmes-là. Il lui a donc fallu apporter des justifications pour pouvoir convaincre. Et on est lui demandé ces justifications. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement les Juifs et les chrétiens de l'Église et de la Messe lui demandaient au prophète des justifications, mais les Arabes aussi demandaient des justifications en référence à une expérience qu'ils avaient de la parole inspirée, si vous voulez, de la parole du devin. Le devin jouait un rôle extrêmement important dans la représentation religieuse, surnaturelle que pouvaient avoir les Arabes en ce temps-là. Il y a donc là tout un espace qui est véritablement conçu, si vous voulez, par toute une représentation de l'accès au phénomène de la révélation. Voilà pourquoi il est extrêmement présent dans le corps. Ceci est une première chose, je suis très intéressé par ces indications, parce qu'il faudrait aller plus loin dans l'analyse, mais enfin, il faut passer à la notion d'écriture, qui est également extrêmement présente dans le corps. Pour en manifester la présence, je vous dirais par exemple que le mot antithèse, le livre, est employé 230 fois dans le corps. Le phénomène de l'écriture est donc un phénomène déjà très important au moment où le Coran intervient, et ce qui ne doit pas nous étonner parce que c'est en relation avec, encore une fois, toute l'histoire culturelle du Proche-Orient. Et cette notion d'écriture est à mettre en relation avec la notion de révélation d'une part, mais va prendre très vite une autre signification qui est celle connue à toutes les écritures comme nous allons le voir. En effet, lorsque le Coran dit par exemple, il parle du dernier tissage, au singulier, dernier tissage, les gens du livre, le mot tissage réfère au même sens que dans l'expression que j'ai citée, au même tissage. C'est toujours le livre céleste. Alors les gens du livre, ce sont ceux qui participent à ce livre céleste, dans la totalité encore une fois, ne nous est pas révélé, mais dont nous avons constamment un certain nombre de manifestations. Et ce sens du mot kitab et ce sens du mot katana n'est évidemment pas à confondre avec le sens qu'il va prendre, d'ailleurs au moment même où le Coran intervient, le sens de mise par écrit, le sens de graphie. Fixation écrite, si vous voulez, de la parole énoncée par le prophète. Et cette fixation par écrit va poser des problèmes extrêmement redoutables en plus. Puisque, comme vous le savez, toute cette révélation, c'est-à-dire la totalité des énoncés faits par Mohammed sous la dictée de Gabriel, la totalité de ces énoncés vont être collectés et transmis par une station écrite. Alors ici aussi, je ne vais pas vous faire tout un historique vraiment long et compliqué, mais ici se pose le principal problème d'accès justement à la révélation, c'est ce que nous l'avons défini. En effet, c'est tout ça. La fixation par écrit des énoncés de la révélation, selon la tradition musulmane, selon la présentation qui est reçue de façon absolument intangible et très difficile à discuter jusqu'à nos jours, c'est que la totalité des énoncés, dans leur authenticité première, ont été fixés par écrit, soit immédiatement quand le prophète même les a énoncés par ses compagnons, par un fils de la compagnie, cependant tous qui ne l'ont pas écrit évidemment, soit mémorisés par les compagnons toujours, et ensuite, et ces énoncés ont été fixés, selon toujours la présentation traditionnelle, par le troisième calife, Othman, vers 656, c'est-à-dire peu de temps après la mort de Mohammed. Cette thèse est un dogme dans l'islam depuis le 4e siècle de l'Égypte, c'est-à-dire depuis le 10e siècle de l'Égypte. Elle est devenue un dogme depuis le 10e siècle de l'Égypte, pas le 10e siècle de la 13e, 4e siècle de l'Égypte. Cela veut dire que pendant les 4 premiers siècles, ce problème de l'écriture, du passage, autrement dit, de la révélation en tant qu'énoncé, donc en tant que parole, à la révélation en tant que fixation écrite, ce problème a été débattu à l'intérieur de l'islam pendant 4 siècles. Et c'est là que tout le travail sur le côté qui a été accompli pour les écritures biblique et évangélique n'est pas encore accompli de la même façon et avec, si vous voulez, la même audace critique que cela a été fait pour les autres critiques. C'est là une des difficultés que je dois souligner devant vous, d'abord par une histoire intellectuelle et ensuite pour vous rendre sensible à la façon dont aujourd'hui ce problème est encore abordé en islam. Dans les pays musulmans. Jusqu'à présent, on considère que ce qui a été fait au temps de Othman, une quinzaine d'années après la mort du prophète, est la totalité de la révélation et que, par conséquent, on peut lui faire compte. Cependant, lorsqu'on refait l'histoire de ce qui s'est effectivement passé, on s'aperçoit que cette situation est liée à un certain nombre de luttes politico-religieuses que je ne peux pas détailler devant vous, c'est plus que. Donc, si vous voulez prendre en compte une limite là de recherche qu'il faudra faire et à laquelle il faudrait s'intéresser. Ceci est une voie. La deuxième voie, alors, qu'il faut continuer, et qui rejoint absolument le problème de la révélation et de l'écriture que j'espère voir poser dans toute son ampleur et dans toute sa radicalité, à la fois par la pensée chrétienne et par la pensée juive, et je dirais de le poser d'une façon solidaire, c'est le rapport, ce problème de l'écriture tel que le définit aujourd'hui l'approche linguistique. Voilà ce que j'appelle, quand j'ai parlé tout à l'heure avec M. Malot, c'est une positivité. Je ne vais pas m'égarer dans des considérations, soit philosophiques, soit théologiques, ou les aspects de l'écriture. Car le problème qui nous est posé, ici, dans le travail que nous accomplissons, n'est pas du tout celui d'un témoignage que chacun de nous apporte aux autres en disant, voilà, moi je suis comme ça. Prenez-moi comme ça, si vous voulez, si vous ne voulez pas faire la même chose, je reste comme ça. Cette affirmation subjective de soi, de sa foi, etc., a précisément conduit dans cet espace culturel commun qui a été travaillé à la fois par la tradition grecque c'est par la tradition politique, a déterminé au cours de la siècle, de ce qui n'est pas paru, au cours du texte pour le cours du plan, toutes les polémiques et toutes les luttes que nous connaissons et que nous continuons de vivre. C'est un problème pratique. Ça n'est pas du tout un problème de spéculation. Voilà pourquoi, encore une fois, je voudrais insister sur le fait que l'écriture abordait selon la problématique actuellement répandue par la linguistique en particulier et aussi la philosophie, nous permet d'envisager le problème de la révélation sur un tout autre plan que celui qui a été utilisé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, avouons-le chacun pour sa propre tradition, pour essayer de créer un espace de travail nouveau. Jusqu'à présent, nous avons affirmé la spécificité irréductible de cette révélation telle qu'elle se trouve chez chacun de nous. Mais lorsque nous avons affirmé au cours des siècles, et nous continuons de le faire, lorsqu'on dit par exemple hors de Jésus, point de salut, ou lorsque nous disons le peuple Jésus, ou lorsque nous disons le prophète Mohammed est le dernier de prophète qui a apporté le sceau de la révélation, nous l'affirmons d'une façon dogmatique. La fermeture de la révélation hors de l'espace rendu par ces trois révélations respectives. Or, ce faisant, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il s'est passé que le problème de l'écriture a été lu et pratiqué selon la rhétorique d'Aristote, selon la poésie d'Aristote, selon les catégories d'Aristote, et selon les catégories de la philosophie platonicienne et néo-platonicienne, chez les droits. Ceci est une positivité, c'est une donnée positive, on ne peut pas l'écarter. L'histoire en témoigne. Et le problème est de savoir, par conséquent, qui vaut du point de vue épistémologique, c'est-à-dire du point de vue de la connaissance ou de la critique de la connaissance, cette transcendantalisation de la révélation de l'écriture dans nos traditions historiques respectives. Je ne dis pas de nos traditions vivantes, parce que le terme de tradition vivante est un terme dangereux. Dans la mesure où nous maintient l'affirmation d'une spécificité qui s'est transmise et qui a été vécue là et non pas là. Il s'agit de parler de tradition historique, parce que dans la tradition historique, nous avons des faits, des événements, des pratiques, des guerres, des exclusions, des interprétations que nous pouvons lire. L'immense littérature polémique, dans ce sens-ci, au courage de faire vous avoir l'occasion de vous parler du côté islamique. Tout cela, c'est un matériel que nous avons à interroger pour voir comment on a transformé le phénomène de la révélation, qui est l'événement et l'avènement d'un sens chez divers hommes qui ont vécu dans diverses circonstances historiques, et comment cet avènement d'un sens a été fixé dans un écrit qui est devenu une référence obligée pour des générations d'hommes, et une référence obligée pourquoi? Parce que la notion d'écriture, voilà un phénomène auquel la pensée théologique n'accorde guère d'importance ou ne fait pas intervenir par stratégie, parce que donc je retrouverais, parce qu'elle ne se donnerait pas si elle le faisait intervenir. C'est que le phénomène de l'écriture n'est pas seulement un phénomène lié à la révélation, n'est pas seulement cette fixation du donné révélé. Le phénomène de l'écriture dans l'histoire, dans toutes les histoires de toutes les cultures, pas seulement dans les nôtres, ce phénomène-là est lié à l'exercice du pouvoir. Ça, c'est un phénomène décisif et c'est une donnée également positive. Si nous apercevons aujourd'hui une différence entre ce qui est dit sur le mode de la parole vivante et ce qui est dit et transmis dans l'écriture,
C'est parce que, justement, l'écriture est liée à un pouvoir exercé par le pouvoir politique en relation avec le pouvoir de la religion exprimé par l'écriture, donné, présenté comme la volonté intangible de Dieu. Mais cette volonté intangible de Dieu, exprimée dans la révélation, et dans une écriture, c'est-à-dire dans un langage humain, et pour y accéder, il faut bien lire cette écriture en tant qu'articulation du sens dans des langues humaines. Ce sont là des banalités, bien sûr, mais ces banalités ont été pratiquées comme des réalités absolument indiscutables et en relation avec la volonté de Dieu. Comme si nous pratiquions effectivement la volonté de Dieu en triturant de cette manière les écritures. C'est ça le problème extrêmement important, à mon avis, qu'il faut essayer de mettre en relief aujourd'hui pour essayer de revoir et de retravailler le problème de la relation entre la révélation et l'écriture. Bien entendu, en islam, ces problèmes-là ont été posés et ont été examinés par un très grand nombre de penseurs, et je ne voudrais pas vous donner l'impression que, en faisant référence à la linguistique, par exemple, je privilégie le travail qui a été fait, vous voyez, dans ces dernières années. Il ne faut pas du tout minimiser le travail qui a été fait au cours de cette exégèse à laquelle j'ai référé, de cette exégèse classique. Car je crois que tous ces problèmes que nous retrouvons aujourd'hui ont été abordés, mais le problème pour nous est de savoir dans quel contexte culturel ils ont été abordés et quelles sont les déformations qui ont été apportées ou quelles sont les déviations qui ont été faites en chemine constamment entre le phénomène de la révélation et le phénomène de l'économie. J'ai là un schéma que j'ai fait pour essayer de résumer, si vous voulez, la totalité des cheminements qui ont été faits par la pensée islamique classique pour essayer de naviguer entre la révélation et l'écriture au cours des textes. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous le donner. J'aimerais au fond vous le donner pour essayer quand même de vous donner une information, même plus simple, sur l'effort déployé par la pensée islamique pour aborder tous ces problèmes-là. Je ne sais pas juste ce que j'entends. Oui, oui. Alors, je prends, si vous voulez, comme point de référence, un auteur vraiment connu, tout au moins, je pense un peu de l'arabe, qui s'appelle Jahed. C'est un auteur du 9e siècle. L'œuvre de cet auteur rassemble à peu près tous les problèmes que l'on peut soulever sur les relations entre la révélation et l'écriture, telles qu'ils ont été vécues dans la pensée islamique. Et vous allez voir que ces problèmes-là, tels qu'ils ont été vécus au 9e siècle, je vous dis bien, se retrouvent pratiquement, absolument, dans l'expérience juive et l'expérience chrétienne. Puisque aussi bien historiquement, vous connaissez les relations qu'il y a entre la pensée musulmane durant ce siècle classique et les pensées juives et chrétiennes. Alors nous avons la révélation ici. Les langages utilisés pour traduire ce qui est cette révélation. La raison en relation avec la tradition grecque, vous voyez que je ne veux pas utiliser une opposition, mais une tension que je vous ai dit, entre cette raison telle qu'elle a fonctionné dans la philosophie grecque, qui intervient encore à l'intérieur du climat islamique travaillé par le phénomène de la révélation coranique, dont tout le monde est obligé de tenir compte, Et cette raison, évidemment, est investie par toutes sortes de données, comme toutes les données historiographiques. Toutes les idéologies qui se développent à l'intérieur de l'histoire islamique, toutes les histoires idéologiques qui interviennent, cette historiographie est elle-même liée à l'époque de la révélation, parce que c'est une certaine histoire qui rend compte de ce qui s'est passé au cours de la révélation. Alors nous avons toute la littérature biographique du prophète et des compagnons qui est capitalisé, si vous voulez, dans la littérature historiographique, et j'arrive à participer à cela dans un moment particulièrement intéressant. Alors si vous voulez ici tout développe ce qu'on peut appeler une conscience religieuse et ici une conscience historique. En relation avec les langages de la raison, nous avons ce que l'on appelle en Occident, et ce que d'ailleurs je le ressens. Et ici, nous avons le langage unique. Alors vous voyez par ce schéma que je rejoins à peu près ce que vous avez dit ce matin avec la fille, et que nous nous trouvons absolument dans un même climat, c'est-à-dire dans un lien, dans les mêmes difficultés à la fois intellectuelles et psychologiques, créées par le phénomène de la révélation. Et si j'insiste sur ça, c'est, ça n'est pas du tout pour vous présenter quelque chose, je pense justement qu'il n'y a pas d'originalité par rapport à ce qui s'est passé, mais c'est pour susciter de votre part, soit des réfutations, soit des compléments, soit des réactions, je vous propose autrement dit ceci, comme un point de recherche pour voir qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce phénomène de la révélation, tel qu'il a été travaillé dans nos traditions respectives. Et le problème essentiel, c'est de savoir si nous allons répéter les classiques de la pensée chrétienne, de la pensée juive, monnaie, comme dit Fabien Lévis, monnaie, nos rabbins, etc. Et à cet égard, la distinction faite ce matin par la distinction entre hébreu et juif, elle peut très bien la reprendre aussi entre ce qui s'est passé dans l'expérience prophétique, au propos des prophètes, des compagnons, etc., et ce qui va se passer avec les séparats en particulier, c'est-à-dire les juifs qui vont s'emparer du donné révélé, non pas tant pour construire une spiritualité, mais pour définir une loi. Cette loi qui va jouer un rôle si important, parce que la loi définie par les juristes, c'est celle qui va devenir le critère de l'identité islamique, beaucoup plus que l'effort pour accéder à l'expérience de la révélation, l'expérience initiale de la révélation. Et ça aussi, c'est un phénomène qui nous est commun. Donc il faut tenir compte et qui ressurgit aujourd'hui comme problème. Alors, je crois que si on essaye de réfléchir sur cet ensemble de problèmes aujourd'hui, il va nous être difficile de parler honnêtement, et j'emploie le mot honnêtement à la fois intellectuellement et spirituellement, de révélation, comme s'il ne s'était pas passé que des événements intellectuels, des pratiques intellectuelles qui sont là, et aussi comme s'il n'existait pas des attitudes religieuses qui se prolongent jusqu'à nos jours et qui sont utilisées jusqu'à nos jours pour justifier des comportements individuels et collectifs dans nos diverses sociétés en relation avec une conception de la révélation, encore une fois, qui n'est pas du tout remise en question, et qui non seulement n'est pas remise en question, mais est très souvent recouverte par des d'interprétation largement influencé par ce que j'ai appelé les idéologies, c'est-à-dire les consciences de groupes qui se sont constituées au cours de l'histoire et qui ont donné naissance à ces divers groupes religieux à l'intérieur de la famille islamique, de la grande famille islamique, comme à l'intérieur de la famille chrétienne, n'est-ce pas ? C'est l'expérience de la révélation est plus ou moins recouverte par ces expériences de groupes qui ont défendu leur identité en relation avec leur tradition culturelle, beaucoup plus qu'avec une expérience effectivement appropriée à leur niveau de la révélation. Ça aussi, ce sont des problèmes que nous connaissons aujourd'hui, des problèmes pratiques que nous pouvons observer dans toutes les sociétés du mal aujourd'hui et que nous pouvons observer également chez nous. Voilà pourquoi il me semble extrêmement gênant de continuer à se référer à la tradition, comme nous disons, sans avoir au préalable tiré toutes les conséquences. Je dis bien toutes les conséquences sur le plan religieux, sur le plan théologique, sur le plan historique et aussi sur le plan politique, la connaissance. Toutes les conséquences de ce qui s'est passé ainsi entre l'événement inaugural, comme nous disons, de ce que nous continuons à appeler la révélation. Mais vous voyez qu'après tout ce que j'ai dit, il est vraiment très difficile de continuer à employer ce mot révélation comme s'il allait de soi et comme s'il nous était donné grâce au travail de ce que nous nommons la tradition vivante. À mon sens, c'est un concept qu'il faut reconquérir. Je crois que nous ne pouvons pas continuer à tenir un langage extrêmement, j'oserais dire peut-être trompeur, sur ce que représente effectivement l'enseignement. Les enseignements religieux dans nos traditions respectives, tant que nous n'avons pas essayé de revoir absolument tout ce qui nous est transmis dans les écrits, au sens que j'ai défini précédemment. Alors, je voudrais peut-être m'arrêter là et je préférerais répondre aux questions que vous allez me poser parce que je suis très attaché aux réactions que vous pouvez avoir sur la façon dont je vous invite à réviser cette notion de révélation telle qu'elle nous a été transmise dans nos traditions respectives. Merci beaucoup. Alors, je crois que le débat est...